Bonjour chers auditeurs, bonjour Père Florent Millet.
Bonjour.
Bienvenue sur les ondes de Radio Maria.
Merci de m'inviter à parler.
Peut-être que les auditeurs reconnaissent votre voix puisque nous avions eu la chance de vous rencontrer au moment du Mont-Saint-Michel. À ce moment-là, nous vous avions demandé quel est le lien particulier que vous entreteniez avec Saint-Michel. Et aujourd'hui, c'est plutôt pour parler de votre vocation que nous vous avons invité. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à devenir prêtre ?
Alors, c'est une longue histoire, comme toujours, hein, une histoire entre Dieu et un homme, en l'occurrence moi. Tout a commencé, vous voyez, c'était quand j'étais jeune, j'avais 8 ans, et mon grand frère qui avait 10 ans à ce moment-là me dit « Voilà, quand je serai grand, je veux devenir prêtre ». Moi, ça m'avait, je me rappelais, il rentrait d'une colonie de vacances, et moi, ça m'avait vraiment, en même temps surpris, et en même temps, je m'étais dit, waouh, ça c'est quelque chose de formidable, il faut que je fasse pareil. Voilà, et puis après, la question est restée jusqu'à un jour où j'étais scout, et j'avais un aumônier qui nous disait, voilà, la vocation, c'est de rendre les autres heureux. Donc, si vous voulez connaître votre vocation, il vous faut demander au Seigneur, eh bien, comment est-ce que je rendrai le plus les autres heureux ? Et c'est ce que j'ai fait à partir de l'âge de 12 ans jusqu'à 17-18 ans. Chaque jour, je priais le chapelet pour demander au Seigneur, mais Seigneur, comment veux-tu que je rende plus les autres heureux ? Tout cela, je le faisais bien sûr en continuant d'être scout, de servir les autres, de vivre dans une paroisse, de prier en famille, normal quoi. Et puis, je me rappelle, quelques jours avant de partir au JMJ en 1989, mon curé me pose la question, est-ce que tu aurais jamais pensé à devenir prêtre ? Alors, il m'aurait mis un coup de massue sur la tête, ça aurait fait à peu près la même chose. Et puis, voilà, parti pour les JMJ, et là, au cours des JMJ, le pape appelle les jeunes à ne pas avoir peur d'être prêtre pour l'an 2000. Ah, je me dis, mais ça c'est pour moi. Et l'année suivante, donc, j'étais en train de passer, c'est mon bac, et là, j'ai commencé à cheminer, etc., à réfléchir, et puis, tout simplement, je suis rentré au séminaire. Voilà.
Et justement, pendant votre temps de formation au séminaire, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui vous a marqué ?
Alors, j'ai eu la chance d'être au séminaire, en particulier au premier cycle à Paray-le-Monial, et qui est un séminaire interdiocésain à ce moment-là. Et donc, du coup, voilà toute l'importance du cœur à cœur avec Dieu. Vraiment, ça, c'est vraiment ce que j'ai découvert. Voilà, le professeur nous disait, avant de commencer par étudier le bon Dieu dans les livres, commencez par l'étudier. Et j'ai trouvé ça très très beau et je le garde toujours dans ma vie de prêtre. Voilà cette relation d'amour avec Dieu. Ben voilà, parce qu'on est d'abord des amoureux de Dieu. Après, on essaie de transmettre cet amour, mais d'abord il faut que moi-même j'en sois rempli. Vraiment, ça m'a touché beaucoup dans cette formation. Et puis aussi, à l'époque, nous avions Monseigneur Guédon, qui était ancien évêque auxiliaire de Paray-le-Monial, et puis qui était venu ensuite à Cahors. Et notre évêque aimait beaucoup, bien sûr, le Sacré-Cœur et la Vierge Marie, et puis avec trois autres séminaristes que nous étions du diocèse à Paray-le-Monial, nous avaient appelés les Mousquetaires de Notre-Dame. Et là aussi, donc, du coup, depuis, ben voilà, j'essaie de toujours, bien sûr, d'être attaché à la Vierge Marie, mais aussi de répandre son amour un petit peu partout, parce que je pense que c'est quelque chose de très beau, à travers la découverte des différents sanctuaires mariaux, etc. Et puis donc maintenant, me voilà à Rocamadour.
Et alors justement, sur votre chemin en tant que prêtre, est-ce que il y a des rencontres ou des événements qui vous ont marqué plus particulièrement ?
Ou bien, inévitablement, bien sûr. Alors bien sûr, les rencontres, comme vous vous en doutez, à quelques reprises, j'ai pu rencontrer le saint pape Jean-Paul II, mais aussi Benoît XVI ou François plus tard. Et voilà, toutes ces rencontres, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, c'est d'être plus proche du cœur de l'Église et de se dire que, le Seigneur nous guide à travers ces personnes qui, elles sont remplies de bonté, remplies de tendresse, de la tendresse de Dieu, elles aussi, puis elles essaient de la transmettre. Bien sûr aussi, j'ai été touché par par le visage des saints ou des saintes, parce que pour moi, ça a été important de découvrir tout au long de mon cheminement. Voilà, par exemple, Charles de Foucault, que j'aime beaucoup, parce que, en particulier, j'ai vécu dans ma jeunesse avec mes parents en Algérie, et donc, du coup, c'était une figure assez extraordinaire, comme mais aussi Saint-Augustin, parce que voilà, j'ai été confirmé dans la basilique. Bon, maintenant, c'est une basilique, avant, c'était la cathédrale de Saint-Augustin d'Hippone. Voilà, mais aussi des figures comme Maximien Kolb, ce saint, c'est extraordinaire. Je suis allé plusieurs fois en Pologne sur ses traces, même à Rome aussi, sur ses traces aussi, à la Casa de l'Immaculée Conception. Mais voilà, tant et tant de personnes, bien sûr aussi des femmes comme les saintes Thérèse, si je puis dire, que ce soit Thérèse d'Avila, Thérèse de l'Enfant Jésus, voilà. Je crois ce sont devenus des hommes, des femmes qui sont devenus mes amis en fait dans mon cheminement sacerdotal, dans mon cheminement de vie chrétienne en fait.
Et donc, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes maintenant à Rocamadour en tant que recteur. Quelles sont vos missions et projets actuels pour ce sanctuaire?
Alors, vous savez, un sanctuaire, sa première mission, c'est d'abord d'accueillir. Ici, à Rocamadour, on est d'abord un lieu touristique, actuellement, je parle bien. Et il est connu comme tel, plus de 2 millions de personnes qui passent chaque année. Et donc, je n'ai pas besoin de forcer pour ça, parce que les gens viennent. Alors, bien sûr, ils viennent comme touristes. Donc, mon défi à moi, c'est de les accueillir et de les transformer en pèlerins. Et donc, pour cela, c'est un défi continuel parce que il faut être là, il faut être là, il faut être là sur les parvis, accueillir les gens, tout simplement leur sourire, leur dire bienvenue. Voilà, c'est ici. Est-ce que vous connaissez la Vierge Marie? Est-ce que vous connaissez le sanctuaire, etc. Et à travers les visites, mais aussi à travers toute la liturgie que l'on déploie du matin au soir, proposer vraiment cette rencontre avec Jésus, tout simplement. Vous savez, actuellement, là où je vous parle, voilà, des gens sont en train d'adorer dans le Saint-Sacrement, dans la crypte. Mais ce matin, voilà, nous avons eu les lodes, il y a eu les confessions, le chapelet, la messe, les offices. Voilà, ce soir, nous aurons les vêpres avec les dépositions du Saint-Sacrement, etc., etc. Vous voyez, toute cette ambiance dans laquelle nous cherchons à vivre pour que les gens qui passent sur le sanctuaire puissent se dire, mais voilà, c'est un sanctuaire, un lieu où on a quelque chose à recevoir. Alors bien sûr, notre sanctuaire n'a pas de message extraordinaire à porter, parce que la Sainte Vierge n'a pas jamais parlé, elle n'est jamais apparue non plus, c'est une statue qui est là depuis avant le 5e siècle. Et cette statue, ben, elle est là, elle nous accueille comme une maman. Et une maman, elle n'a pas besoin de dire grand-chose pour nous dire qu'elle nous aime. La seule chose qu'elle fait à Rocamadour, c'est qu'elle nous présente son genou libre, à côté de Jésus. Elle nous dit, voilà, si tu veux, c'est ta place. Tu peux être mon fils, ma fille bien-aimée, et tu peux le découvrir. Alors, mon gros travail ici, c'est de faire découvrir cela avec mes confrères prêtres qui sont là, avec des bénévoles, avec les salariés qui sont là, mais j'ai aussi les services civiques. Voilà, il y a toute une équipe qui est là pour qu'on puisse être bien accueillis. Puis après, il y a le défi, bien sûr, de l'été, où alors là, c'est un petit peu comme une ruche, où les gens arrivent de partout, où ça grouille de partout. Voilà, il faut vous imaginer, les gens qui arrivent en short, en débardeur, en claquette et tout ce que vous voulez, pour pas vous dire maillot de bain, parce qu'ils ne savent même pas où ils arrivent, quoi. Et là, il faut les saisir, et puis leur permettre de rencontrer le bon Dieu. Et je peux vous dire que c'est quand même merveilleux, parce que le bon Dieu, il est bien vivant, il est encore à l'œuvre, et si vous ne croyez pas, ben venez à Rocamadour, venez évangéliser, vous allez voir, venez dire aux gens bienvenue, venez leur proposer une petite parole de Dieu, et vous allez voir combien les gens sont touchés par la grâce. Alors voilà, ça c'est le quotidien du sanctuaire, voilà. Après, il y a bien sûr des grands projets plus lointains, comme bien sûr on a le jubilé 2025, où le pape demande au recteur de sanctuaire d'être particulièrement attentif justement à cette dimension de l'accueil, mais aussi de la miséricorde, que les lieux de sanctuaire soient vraiment des lieux de miséricorde, voilà. Et puis aussi, comme vous le savez, Notre-Dame de Rocamadour n'est pas vénérée qu'à Rocamadour, elle est vénérée un petit peu partout dans le monde parce que, elle est patronne des marins. Et donc, du coup, les marins, un peu partout, ont répandu cette dévotion à la Vierge Marie. Et là, donc, du coup, comme pour la troisième fois, on va s'inscrire dans le Vendée Globe, et on va aller organiser tout un, toute une, voilà, un grand pèlerinage à pied de Rocamadour jusque à Soulac-sur-Mer, c'est-à-dire à la pointe de Grave, au-delà de Bordeaux, là-bas, et puis après en bateau, on va remonter jusqu'au Sable-d'Olonne. Voilà, des beaux beaux projets, mais là, voilà, ça serait long d'en parler, mais c'est quelque chose de merveilleux.
Alors, depuis tout à l'heure, vous nous parlez, enfin, on sent votre joie à être prêtre et à transmettre ce message de l'amour du Christ. Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à un jeune prêtre comme outil ou comme arme?
Alors, ce que je pense, c'est d'abord, premièrement, voilà, ce que je disais tout à l'heure, hein, commence par te mettre à genoux. Ça, c'est la première chose, parce que, voilà, on n'est pas prêtre parce qu'on est meilleur que les autres, parce qu'on a fait des super études, ou je ne sais pas quoi, encore faudrait-il qu'on en ait fait. Voilà, on est prêtre d'abord parce qu'on est des amoureux de Dieu, et puis savoir que c'est d'abord le bon Dieu qui est à l'œuvre. Hein, nous, on est des instruments, mais le bon Dieu, il est avant nous, il sera après nous, et heureusement, bien heureusement. Et puis, voilà. Autre chose aussi, c'est voilà, s'inscrire dans le peuple de Dieu, vous voyez, le peuple de Dieu, il a son histoire. Bon, moi, je suis à Rocamadour, ben, je me mets dans la trace des anciens recteurs depuis des siècles qui sont là au service du sanctuaire. Et puis, j'essaie de faire ce que je peux aujourd'hui pour que le sanctuaire puisse, voilà, continuer de rayonner. Voilà, toujours s'inscrire dans une histoire. Voilà, on n'est pas, on peut avoir des super idées, bon, tout tant mieux, hein, c'est pas un problème, mais on n'est pas là pour révolutionner les choses, on est là pour, voilà, que les pour entraîner les gens dans une histoire qui est celle de la fidélité de Dieu avec son peuple et de l'amour de Dieu avec son peuple. Ça, je crois que c'est très important. Être amoureux de Dieu, être amoureux de l'histoire de ce lieu qui nous est donné. Et puis, bien sûr, voilà, tout ce qui est l'importance d'aimer les gens, quoi, en fait. D'aimer les gens comme ils sont. C'est sûr que ici, ben, voilà, quand les gens entrent quasiment en maillot de bain dans les églises, je suis bien obligé de leur dire, ben, couvrez-vous un petit peu. Alors, donc on met des châles de pudeur d'un côté, de l'autre, etc. Mais oui, mais fondamentalement, il faut les aimer. Il y a la manière et la manière de leur dire. Hein, soit on les rejette, etc., etc. Soit on leur dit bonjour, bienvenue, voilà, attention, vous êtes dans un lieu sacré, vous allez pouvoir faire ça. Vous voyez, je crois que c'est tout ça, toute cette bonté qu'on doit avoir envers ces gens qui, en fait, n'ont pas une mauvaise volonté, mais par mon action, peuvent se sentir soit accueillis, respectés, honorés, soit parfois rejetés. Donc, du coup, voilà, l'amour de Dieu, s'inscrire dans une histoire, l'amour d'un peuple, et puis des gens qui nous sont offerts, je pense que ça, c'est un petit peu important. Et puis, vous voyez, alors, comme toujours, j'invite souvent les jeunes prêtres à venir. En leur disant, ben allez, prenez votre place dans le confessionnal et vous allez voir les merveilles de Dieu, parce que c'est le lieu où on voit le plus de merveilles de Dieu. Hein, quand on passe notre journée dans un confessionnal, et ben je peux vous dire que voilà, on voit toute la miséricorde de Dieu qui se répand dans les cœurs de tous les gens qui viennent et qui, pour beaucoup, entrent dans le confessionnal parce qu'ils voient, comme je dis, la lumière, quoi. Ils ont vu qu'il y avait quelqu'un. Et puis, bon, là, ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'ils ne s'étaient pas confessés, mais ils disent, ah, oh, bah tiens, pourquoi pas? Et puis voilà, et ils repartent complètement renouvelés. Voilà, il y aurait sûrement plein de belles choses à dire, hein, mais je crois que, voilà, si on veut expérimenter la joie d'être prêtre, eh ben, il faut aller chercher à vivre un petit peu ces 3-4 dimensions-là.
Alors, avant de devenir prêtre, il y a la question de la vocation. Qu'est-ce que maintenant vous aimeriez dire à un jeune justement qui se pose la question de la vocation?
Eh bien, d'abord, premièrement, voilà, est-ce que tu aimes vraiment le bon Dieu? Est-ce que tu avais vraiment envie d'aimer le bon Dieu et de le transmettre, cet amour de Dieu? Voilà, ça, je crois que c'est important. Et puis, pour un jeune qui se pose la question de la vocation, bien sûr, ça se fait dans un cheminement, dans un accompagnement spirituel, etc., pour voir un petit peu comment est-ce que ce jeune s'enracine dans sa vie, s'enracine et dans la vie de prière et dans la vie de service. Vous voyez, si on prie, c'est pour se remplir de l'amour de Dieu, et si on sert, c'est pour donner cet amour de Dieu. Et donc, du coup, c'est comme une respiration, quoi, en définitive. Est-ce que déjà, le jeune qui se pose une question, hein, que ce soit un prêtre, ou pour devenir prêtre ou pour devenir religieux ou religieuse, voilà, il faut avoir cette double respiration, quoi. Parce que sinon, ben voilà, on deviendrait des fonctionnaires, c'est-à-dire on ferait notre petit job, quoi, mais pas pour nous, bon, pas pour le bon Dieu, quoi, pas pour le service de l'Église. Voilà. Et puis aussi, je crois que ce qui est important pour un jeune qui se pose des questions, c'est l'amour de l'Église. Parce que ben, l'Église, elle est comme elle est constituée d'hommes et de femmes non parfaits, mais n'empêche que ben, voilà, cette Église, elle est sainte, elle est belle, et puis ben, il faut l'aimer comme elle est, et puis la faire aimer. Hein, c'est très facile de critiquer, c'est très facile de dire, ah oui, le pape a dit ci, tel évêque a fait ça, etc. Et ça, oui, ok, d'accord, mais est-ce que ça élève l'âme, est-ce que ça fait grandir notre amour de Dieu? Non. Même c'est plutôt l'inverse. Par contre, ben, quand on cherche la beauté voilà, de cette église qui nous est donnée comme moyen de salut, eh ben, je crois que c'est tout gagné, quoi. Voilà, et puis je pense que pour un jeune qui se pose des questions sur la vocation, c'est aussi ne pas rester seul. Hein, voilà, et on peut se poser des questions tout seul, mais il faut pouvoir y réfléchir avec d'autres et puis vivre cela avec d'autres, parce que c'est quelque chose d'important. On voit bien un jeune dans la relation avec les autres, comment est-ce qu'il se comporte, est-ce qu'il a. Et vraiment cet amour de Dieu, est-ce qu'il a vraiment envie de le donner, ou est-ce que c'est juste de la façade, ou du paraître, ou de je sais trop quoi. Voilà. Oh, il y aurait sûrement plein de belles choses à dire, hein, mais là je vous réponds comme ça avec tout mon cœur.
Et c'est déjà très bien. Merci beaucoup, mon père. Malheureusement, c'est la fin de notre émission. Et comme vous dites, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais c'est la fin. En tout cas, merci beaucoup d'être venu partager votre vie de prêtre sur notre antenne.
Bonne journée.
Chers auditeurs, c'était notre émission Un prêtre témoigne. Nous avons interviewé le père Florent Millet. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.